de la musique, du théâtre, du cinéma et du débat dans cette édition. On ira faire un tour à Versailles et un autre à Makemo et on parlera surf et rugby en fin de journal. Le journal, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Une fois n'est pas coutume, on commence par la culture, d'abord avec ce concert.
Et oui, le concert de la femme, une tradition pour le 8 mars, journée internationale du droit des femmes, vous le savez. C'est la 12e fois que les artistes du conservatoire se mobilisent pour cette cause. Cette année, ça se passe donc vendredi soir à la mairie de Pirée à 19h15, avec au programme du Holy Tahiti sous la direction de Moon et l'accompagnement de l'orchestre traditionnel du conservatoire, de la musique de chambre aussi avec les professeurs et le chœur lyrique dirigé par Peterson Cowan. Véronique Spitz sera aussi là, accompagnée par la violoncelliste Maris Castello pour une éloge de la femme. Quant à Steve Angia, ancien du groupe Sissasue Okotai et également professeur au CAPF, il a préparé une surprise venue de rap à écouter.
Cette année, j'ai le plaisir de vous présenter un tout nouveau groupe de jeunes originaires de l'île de Rapa. Ils vont être présents pour justement soutenir et ça sera leur première fois sur scène. Et on a un leader, un tout jeune étudiant originaire de Rapa, Tutaki Make. Le nom du groupe, Paka Isori. On fait appel à toute la population de venir en masse pour soutenir justement cette cause.
Voilà, et comme d'habitude, les fonds récoltés pour ce concert vont permettre des programmes de formation pour les femmes du centre Puoteo, des ateliers pour les jeunes filles du centre Tiainui Ere de Paea, et ils vont contribuer aussi aux recherches sur les maladies cardiovasculaires dont les femmes sont victimes. Les billets sont en vente au bureau de la communication du conservatoire.
Et puis la culture, c'est aussi le théâtre.
Et oui, le théâtre et le cinéma qui, vous le savez, sont réunis au sein du festival TVVO. Après la canopée et le règne animal de ces derniers jours, le festival qui offre le monde en écho s'intéresse à nos besoins vitaux cette semaine, au travers d'une pièce déjà acclamée en Belgique et en France, La dernière nuit du monde, un monde dystopique dans lequel sont commercialisées des pilules qui permettent de couvrir tous les besoins en sommeil en seulement 45 minutes par jour. Un fantasme peut-être, reste à savoir comment ce temps supplémentaire sera utilisé et conquis par les règles du marché. La pièce n'en oublie pas les histoires intimes, écoutez.
Il y a la petite histoire d'un couple dans la grande histoire du monde, et ça pendant 10 ans. Et alors le point finalement de bascule de ce spectacle, c'est que la jeune femme de ce couple disparaît et l'homme va passer sa vie à la chercher, en tout cas 10 ans à la chercher dans un monde où la nuit a disparu, parce qu'elle a disparu avec la nuit. Donc il y a toute cette idée aussi de profiler, d'enquête, de trucs policiers quoi.
Fabrice Murgia, le metteur en scène et interprète de la pièce qui était sur notre plateau ce matin, il rappelle que le futur étudié dans cette dernière nuit du monde n'est pas si lointain, puisque des recherches sont déjà en cours depuis plusieurs années pour réduire chimiquement le sommeil à son strict minimum. Le film qui accompagne ces représentations, c'est un monument, Métropolis de Fritz Lang, qui sera diffusé mercredi soir, toujours au Petit Théâtre, un film de 1927, muet et en noir et blanc, mais pour Fabrice Murgia, il est toujours pleinement d'actualité.
Pour moi, Métropolis, il ne faut absolument pas avoir peur de l'époque. Déjà, c'est un style, c'est l'expressionnisme, donc c'est quand même canon, quoi. On est devant un tableau vivant, c'est aussi extrêmement rythmé, et ça parle, et c'est aussi extrêmement contemporain. Donc le film a fait un four à sa sortie en 1927, mais c'est dans la deuxième moitié du XXe siècle où on s'est dit, tiens, mais en fait, ces prévisions, elles commencent à être quand même réalistes, avec l'arrivée des machines qui remplacent le travail. Et aujourd'hui, ce film, c'est extrêmement pertinent de le programmer parce qu'il répond très fort à l'intelligence artificielle, à ce qu'on connaît depuis un an ou deux, là, qui est devenu un peu grand public, l'accès à ces possibilités d'intelligence artificielle, comme on dit. Et voilà, moi, je pense que c'est un film à revoir absolument aujourd'hui.
Voilà, Métropolis, un film à voir ou à revoir mercredi soir, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, La dernière nuit du monde sur scène, on vous l'a dit. Et comme d'habitude, des débats sont programmés après les séances, en tout cas celle de mercredi soir et de samedi soir. Ce sera en présence bien sûr d'invités polynésiens pour étendre un petit peu cette thématique du capitalisme à l'assaut de nos besoins vitaux. C'est le thème qui a été retenu par les organisateurs de TVVO. Comme d'habitude aussi, les places, c'est sur ticketspacifique.pf, dans les magasins Carrefour et puis à l'accueil de vos radios préférées ici à Faleoute.
Sans transition, on parle de politique du côté de Paris.
Ou plutôt de Versailles, où les députés et sénateurs ont siégé ensemble ce matin. Ça n'arrive que pour les congrès qui rassemblent tous les membres du Parlement. Et ce congrès avait été réuni pour un vote qualifié d'historique, celui de l'inscription dans la Constitution de la liberté des femmes à avoir recours à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Un sujet sur lequel les trois députés polynésiens, les Tavini Merera, Rend Arbelot, Steve Chaillou et Tematei Le Gaïc, font partie des 780 voix pour cette réforme. réforme constitutionnelle. Celle du sénateur Tevaro Fritsch se mêle à la leur et à cette grande majorité. En revanche, sa collègue Lana Tetenoui a, elle, maintenu le vote contre qu'elle avait déjà exprimé au Palais du Luxembourg. Seuls 72 des plus de 900 parlementaires ont choisi cette position et la sénatrice Tapoura s'en est déjà expliquée en précisant qu'elle estimait que ce droit était, selon elle, déjà garanti par la loi Veil et ne nécessitait pas d'être inscrit dans la Constitution. Tevaro Fritsch, sur Facebook, lui avait répondu en disant respecter l'opinion de chacun, mais en précisant que cette sanctuarisation était pour lui nécessaire face à la montée des populismes et des extrêmes dans une époque marquée par les libertés remises en question dans plusieurs régions du monde. Fin de citation.
Direction les Tuamotu maintenant, avec ce triste constat, il n'y a plus aucun soignant à Makemo.
Et oui, et pour certains, ce serait le symptôme de troubles qui touchent les dispensaires de beaucoup d'autres îles éloignées. À Makemo, le dernier médecin en poste a terminé son séjour vendredi avec une longue file de patients venus faire renouveler leur ordonnance. L'auxiliaire de soins, elle, est en arrêt longue maladie et n'a pas été remplacée jusqu'à présent, en tout cas. Restée une seule infirmière au dispensaire en poste depuis 2022, seulement voilà, elle a été agressée vendredi par une patiente connue pour des troubles psychiatriques et que le médecin avait justement voulu voir avant son départ. Marie-Élodie, c'est le nom de cette infirmière, a bien voulu témoigner au micro de Caroline Perdry.
Elle est arrivée vers 11h, très énervée, en disant qu'elle ne voulait pas attendre son tour. Donc je l'ai prise dans mon bureau, je lui ai dit que c'était sa dernière chance, que c'était le dernier jour de notre OT, qu'après on ne savait pas quand est-ce que quelqu'un arrivait. Et elle s'est levée, et elle a commencé à me mettre des coups de poing. Et elle m'a bloquée derrière mon bureau. J'ai pris des coups de poing sur les bras, dans le cou. J'ai commencé à crier, je ne pouvais pas sortir.
Marie-Élodie, infirmière de Makemo, qui a été secourue par ses patients et ses collègues, mais qui a tout de même écopé de 15 jours d'ITT. Elle confiait hier vouloir porter plainte, mais aussi vouloir raccrocher la blouse, en tout cas ne pas rester en poste à Makemo.
Pour l'instant, moi, je ne me vois plus travailler à Makemo. J'ai eu des périodes de grand stress en étant seule soignante sur l'île ou alors seule infirmière avec un médecin, mais ça veut dire qu'on est d'astreinte 24 heures sur 24, donc un rythme insoutenable, avec des fois trois appels interventions dans la nuit et il faut assurer le lendemain matin. Donc moi, je ne me vois plus continuer comme ça et je ne me sens plus en sécurité à travailler dans des conditions comme ça.
Voilà une infirmière qui interpelle aussi sur les conditions matérielles de travail dans un dispensaire délabré avec des équipements non réparés faute de budget. La commune emmenée par le Tavana Félix Tokoragi a sa part de responsabilité dans cette situation, mais le fait est que ces difficultés matérielles et humaines ne sont pas propres à cette île des Tuamotu. Le syndicat de la fonction publique estime que la situation de Makemo est symptomatique de ce qui va arriver dans beaucoup d'autres municipalités du fait du manque de moyens de la direction de la santé. Du côté du ministère, on considère au contraire ce cas comme exceptionnel et on précise qu'une aide-soignante a été mobilisée d'urgence. Elle est attendue à Makemo dès mercredi.
On finit par le sport, d'abord avec le ballon ovale.
Et oui, on vous en a beaucoup parlé ces derniers temps des manœuvres de la Fédération polynésienne de rugby pour révéler le potentiel de ce sport en Polynésie avant les prochains Jeux du Pacifique. C'est le plan Aito 2027. Les clubs participent aussi à l'effort. La preuve, ce partenariat mis en place entre le rugby club de Pirée et le Stade français, actuel leader du top 14 en métropole. Un choix évident pour Patrick Lopez-Dio de l'école de rugby de Pirée. Écoutez.
Pourquoi on a contacté le Stade français? C'est parce que le Stade français met beaucoup en avant le fameux double parcours quand on parle avec les jeunes sportifs, c'est-à-dire qu'il faut être bon à l'école, il faut être bon aussi sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose qui nous avait bien plu, qui correspondait à ce qu'on recherchait, parce qu'on le sait, en Polynésie française, certains de nos jeunes vont aller en métropole faire des études, mais ils veulent quand même faire du rugby, et donc c'était trouver peut-être des passerelles. Mais au-delà de ça, c'était vraiment trouver un club qui pouvait nous accompagner dans notre développement.
Voilà, ce partenariat prévoit la formation de cadres et des voyages de jeunes vers la métropole, et justement, le responsable du centre de formation parisien, Julien Combes, est au Fénois ces jours-ci, et il a déjà repéré quelques talents qui pourraient briller dans l'équipe de Tahiti 2027.
Ouais, il y a des potentiels, hein, que ça soit sur le pôle masculin ou féminin, et féminin aussi, là, 3-4 joueuses cadettes, U16, là, qui ont vraiment un fort potentiel. Et chez les garçons aussi, des joueurs potentiels. Après, c'est du rugby à 7. Sur une pratique à 15, il faudra aussi s'adapter aussi à cette pratique-là en France.
Julien Combes du centre de formation du Stade français, pour qui l'objectif, bien sûr, c'est que le Fénois suive la voie de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis et Futuna, qui ont déjà envoyé de nombreux joueurs en top 14 et même en équipe de France.
Et on finit par cette bonne nouvelle du côté de Porto Rico.
Et Porto Rico, se sont terminés ce week-end les mondiaux de surf organisés par l'ISA. La bonne nouvelle, c'est que Kaoli Vast s'est classé 3e de ces championnats du monde derrière le champion du monde justement brésilien Gabriel Medina et le marocain Ramzi Boukiam. Le jeune Tahitien termine juste devant Joanne Duru, 4e et dernier français qualifié pour l'épreuve olympique de Teahupo. Les autres, ce sont donc Kaoli Vast, Vainé Fierro, éliminé prématurément de ces mondiaux, mais aussi Joanne Defay qui finit elle aussi 3e chez les filles. La mauvaise mauvaise nouvelle, en revanche, c'est que la France espérait accrocher les places extra qui étaient mises en compétition dans ces mondiaux ISA, toujours pour les JO. Ça aurait pu laisser une chance à un Polynésien comme Miimana Braï, par exemple, de rejoindre l'aventure olympique. Il fallait pour ça terminer meilleure nation. Il s'en est fallu de peu. La France, pardon, prend finalement la seconde place du classement des nations, derrière le Brésil, qui rafle toutes les places olympiques restantes dans ces championnats du monde. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Comme d'habitude, le retour de l'info, ce sera à 16h et ce sera pour le flash de la rédaction.